L'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Le Mali, où un deuil national de 3 jours a donc été décrété après la mort mardi de 17 soldats lors de l'attaque de la base militaire de Nampala, dans le centre du pays. Une attaque revendiquée par 2 groupes armés. D'abord par l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice, un mouvement créé le mois dernier. Puis par le groupe djihadiste malien En Sardine. C'est donc, vous le comprenez bien, la confusion concernant l'identité des assaillants, même si pour les experts, il ne fait aucun doute que la seconde revendication est plus crédible, d'autant que ce groupe Peul n'a pas véritablement la logistique pour mener seul une telle opération. En tout cas, on parle bien d'une attaque puissante. Les assaillants étaient lourdement armés et la question que tout le monde se pose, c'est de savoir comment ces assaillants ont-ils pu prendre si facilement le contrôle de la base militaire. Le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est exprimé. Il n'a pas hésité à parler de défaillance dans le dispositif de l'armée. Il a d'ailleurs ordonné que les insuffisances constatées soient immédiatement corrigé. Alors, quelle doit être justement la réponse du gouvernement? Le rétablissement de l'état d'urgence à partir d'aujourd'hui suffira-t-il à garantir la sécurité? Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Vos réactions, et elles sont nombreuses également sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. La Sina, par exemple, nous dit: je ne comprends pas. Dans ce camp militaire, n'y avait-il pas assez de soldats? Était-il suffisamment armé? Où se trouvait la force Barkhane pour épauler nos soldats à Nampala? Il y a vraiment trop d'interrogations, nous dit cet auditeur. Aboubacar, bonjour.
Bonjour, monsieur Gomez.
Vous nous appelez de Kaye et vous disiez au Standard être inquiet par cette attaque de Nampala.
Effectivement, je ne suis pas le seul, mais Juan, permettez-moi de présenter d'abord mes condoléances aux familles des militaires tués à Nampala et que leur âme repose en paix. Ceci dit, l'inquiétude règne un peu partout. Les populations sont inquiètes, et au nord, et au centre, et même au sud. Moi, je suis à Kaye, mais nous sommes tous inquiets dans la mesure. Alors, sans être pessimiste, notre pays, M. Gomez, est menacé dans son existence en tant qu'État souverain et indépendant. Visiblement, les nombreuses formations reçues par nos militaires n'ont pas permis à venir à bout. Alors, des forces du mal, la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour. Donc moi, je pense, M. Gomez, que à l'heure où nous vivons, les militaires ne doivent plus se cantonner dans les camps, parce que les camps sont devenus les cibles privilégiées de ces terroristes. Nous nous souvenons en 2012 de ce qui est arrivé à nos militaires dans leur camp à Guelob. Nos militaires ont reçu des formations, mais nos militaires n'ont pas d'avion. Nos militaires n'ont pas de renseignement. Alors, nos militaires n'ont pas d'avion sans pilote.
Effectivement, et vous êtes nombreux à nous interpeller sur l'absence de matériel de l'armée malienne. Adama interpelle directement le chef de l'État sur notre page Facebook. Monsieur le Président, à quand des hélicoptères pour notre armée afin que les militaires puissent intervenir à temps dans de pareilles situations? D'autres auditeurs disent que l'armée malienne est la seule armée républicaine au monde à ne pas disposer d'hélicoptères et d'avions. C'est donc essentiellement l'absence de moyens qui expliquerait que l'armée malienne soit de plus en plus la cible de djihadistes ou d'autres groupes armés.
Mais effectivement, Juan, aucune guerre aujourd'hui, que ce soit asymétrique ou conventionnelle, ne peut se gagner sans ces moyens de communication, sans ces avions sans pilote, sans ces hélicoptères, sans une bonne organisation sur le terrain. Moi, je pense sincèrement que la mission Barkhane doit s'impliquer davantage, sinon la France serait toujours mal comprise par un bon nombre quand même de nos concitoyens.
Alors vous parlez de l'opération Barkhane, on peut parler également des casques bleus, la mission des Nations Unies qui est déployée sur place et qui a vu son mandat renforcé il y a moins de 2 semaines par le Conseil de sécurité des Nations Unies, et nombreux étaient les Maliens à exiger justement un mandat suffisamment robuste pour que les casques bleus puissent faire face désormais aux attaques djihadistes. On va donner la parole à Gabriel Gabriel qui nous appelle de Bamako, la capitale. Bonjour Gabriel.
Bonjour Juan.
Est-ce que vous partagez les inquiétudes d'Aboubacar?
Parfaitement Juan. Permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances à la famille, aux familles des militaires qui sont tombés en Ampala. Moi je pense que l'inquiétude elle est grande, mais ce qui est aussi vraiment étonnant, c'est de voir qu'un groupe Peul, ça c'est vraiment étonnant. Moi je me pose toujours la question et je me dis peut-être que c'est pas ce groupe Peul qui a fait l'attaque en question. Parce qu'un groupe qui a été créé en mois de juin, passé seulement en un mois, ne peut pas, à mon avis, avoir l'équipement qu'il faut pour attaquer un camp. Et puis un camp principal de Nampala.
Ouais. Alors sur ce point, Gabriel, je le disais tout à l'heure en introduction, de nombreux experts doutent de l'authenticité de cette première revendication. Hein, revendication, je le rappelle, de ce mouvement Peul, effectivement, mouvement politico-armé qui a été créé le mois dernier, Alliance nationale de la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice. Personne ne croit une seconde qu'ils ont pu eux seuls commettre un tel acte. En revanche, rien ne dit qu'il n'y a pas connivence ou qu'il n'y a pas une certaine porosité entre ce mouvement Peul et peut-être le groupe en sardine qui a revendiqué également cette attaque.
Exactement, Juan. Moi, je me dis, ce groupe a été même peut-être créé pour permettre aux terroristes de bien atteindre leur objectif. Parce que c'est un groupe qui est créé, un groupe de Peul, on s'est dit, voilà, et ils font partie de la population malienne, il n'y a pas de problème, mais on peut utiliser ce groupe pour faire du mal. Et ça peut être une explication. Maintenant, ce qui peut être inacceptable, si le président peut-être reproche quelque chose à l'armée, ben, la question peut être posée. Il y a l'auditeur qui m'a précédé, qui disait tout de suite le manque d'équipement qui est là. Ça, c'est vrai, mais la vigilance aussi au niveau de l'armée. Moi, je pense qu'un camp militaire, déjà, à quelques kilomètres, on doit pouvoir sentir l'arrivée des ennemis. Mmh. Ça veut dire que l'armée a peut-être manqué de vigilance quelque part. Certes, il y a le manque d'équipement qui est là, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'équipement de renseignement. Tout ça, ça peut expliquer le problème. Mais il faudra aussi mettre l'accent sur la vigilance au niveau des militaires.
Alors je vous lis, Gabriel, je vous lis la réaction de Mamadou sur Facebook. Il estime que ce qui est arrivé à Nampala est un problème de discipline militaire, car les assaillants auraient surpris les soldats dans leur sommeil. Lâcher la garde dans une zone de guerre, c'est totalement suicidaire, nous dit cet auditeur.
Et c'est bien possible. Ça dit que le constat dans les casernes, dans les camps militaires, on peut même passer, il y a un militaire qui est en garde. Vous pouvez passer, l'arme est déposée à côté de lui, lui-même il a les pieds sur le mur, il est en train de dormir. C'est inacceptable.
Oui.
C'est inacceptable.
Et en même temps, c'est vrai, on a du mal à comprendre comment plusieurs véhicules, on parle d'une dizaine de véhicules avec des hommes donc lourdement armés, peuvent s'approcher aussi facilement d'un camp militaire alors que cette zone, elle est quasiment désertique. Il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de montagne. Donc, quelqu'un qui est censé tenir la garde, garder donc ce camp, est censé voir au loin arriver quand même une file de pick-up, ce qui n'a pas été le cas. Merci Gabriel de nous avoir appelé. On reste au Mali, évidemment. Nous allons à Ségou. C'est à 250 km au nord-est de Bamako. Bonjour Moustapha.
Ah, bonjour Monsieur Wan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Bon, vraiment, j'ai bien suivi mes prédécesseurs. Je crois que quelque part, ils ont tous raison. Mais en ce qui me concerne principalement, je pense que le problème se situe à plusieurs niveaux. Par exemple, quand tu vois Nampala, c'est une zone désertique, presque tout est, la vie est longue, il n'y a pas de... En même temps, des dizaines de véhicules viennent attaquer les camps, d'une part, et puis très tôt le matin, logiquement, ça veut dire que nous, les militaires dormaient, ça c'est clair. Ils dormaient. Donc, ce qui est certain, les militaires sont là pour sécuriser la population. Mmh. Bon, il faut qu'eux-mêmes, ils sécurisent eux-mêmes aussi. D'une part, s'ils nous sécurisent, il faut qu'ils veillent à leur propre sécurité aussi.
Bien sûr, évidemment, il faut qu'ils sécurisent leur camp et ils sont également là pour protéger, sécuriser la population. Issa nous appelle de Washington. La diaspora, évidemment, souhaite prendre la parole ce matin. Vous êtes malien, Issa, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Effectivement, je suis malien, Juan.
Vous êtes en colère ce matin, comme beaucoup de Maliens d'ailleurs. Vous ne comprenez pas que les autorités ne tirent pas les leçons du passé.
Effectivement, c'est vrai. Mais Juan, qu'il me soit permis de m'incliner devant la mémoire des forces armées du Mali, FAMA, qui sont tombées sur le champ d'honneur pour la défense de l'intégrité du territoire malien d'Aguelog à Nampala. Juan, après cette énième attaque contre le camp de Nampala, je me suis posé trois questions. La première question, Juan, c'est que est-ce que nous avons appris des erreurs du passé? Avons-nous appris des erreurs des récentes attaques contre la base de Nampala? C'est la quatrième décision? Juan, avons-nous appris? Si oui, avons-nous développé des mesures régaliennes pour mettre contrecarrer d'éventuelles attaques des assaillants? Je ne peux pas comprendre que Juan, à quatre reprises, des assaillants lourdement armés viennent attaquer un camp.
Et à chaque fois, Issa, on annonce des renforts.
Bien sûr, des renforts. Effectivement, il faut se demander également où sont nos services de renseignement. Winston Churchill nous fait savoir qu'un peuple qui ne se rappelle pas de son passé est condamné à le survivre. Nous sommes en train de vivre le passé récent. On a oublié où sont nos services de renseignement. Juan, avec tous les moyens de communication de nos jours, les téléphones, l'Internet, les réseaux sociaux, j'en oublie. Nos services de renseignement ne parviennent pas à appréhender ni en amont ni en aval ces attaques. Il y a lieu de se demander, est-ce qu'ils travaillent de concert avec les forces de défense? Y a-t-il un déficit de communication entre eux? Je ne peux pas comprendre. Ouais.
Issa, que vous inspire cette double revendication?
Cette double revendication, Juan, sincèrement, comme vous l'avez si bien dit, les Peuls, ils ont revendiqué en un premier temps. C'est la probabilité que cette revendication soit vraie, plus ou moins, est improbable. Mais il peut y avoir une coalition, avec les djihadistes afin de s'attaquer. Juan, comme on le dit, l'adage le dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi.
Donc qu'il peut y avoir une certaine porosité entre les groupes armés et notamment entre ce nouveau mouvement politico-militaire Peul et en Sardine. Shérif sur Facebook affirme que l'ampleur de cette attaque s'explique par le fait que nos ennemis connaissent nos capacités de riposte. Réaction également de Keita. Il y a un manque de collaboration des populations, voire même une complicité entre les populations et les groupes armés. Mais vous en pensez quoi, Issa?
Bon, Juan, en ce qui est sûr, il y a un déficit de communication. Mais on ne peut pas blâmer la population également. Puisque là, les attaques, ces gens-là, ils savent comment attaquer. Ils arrivent tôt le matin, ça trouve que la population est au sommeil, y compris les militaires. Donc c'est la charge revient à nos forces de l'ordre, nos forces de défense et nos services de renseignement. Ils ne parviennent pas à appréhender, c'est notre territoire, ils ont les moyens de communication, ça veut dire quelque part, mais aussi il faut souligner, d'aucuns parlent des armements, des formations, il faut souligner l'état, le moral, le mental, est-ce que le mental est au top pour faire face? Parce que Juan, on se rappelle des événements de 2012 à Aguelog, on a eu à tuer plus de 100 personnes, ils se sont battus pendant une semaine, il n'y a pas eu de renfort. Juan, je suis dans un camp militaire, je suis en train de me battre et je sais qu'il n'y aura pas de renfort.
Donc vous avez l'impression, Issa, que l'armée malienne, dans sa globalité, est démotivée, démoralisée face à la recrudescence des attaques et on voit bien que cette armée manque cruellement de moyens pour riposter. Merci d'écouter RFI à Washington, bonne fin de nuit à vous sur place. Mamadou, vous êtes à Bamako, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la radio du monde.
L'armée malienne est en état de déliquescence, avez-vous dit au Standard?
Oui, exactement. Tous les précédents auditeurs ont caressé l'affaire dans le sens des poils. Hein. Sinon, c'est la corruption qui gangrène l'armée malienne et c'est tout le résultat qui se voit sur le terrain aujourd'hui. Rien que la corruption.
Pourquoi parlez-vous de corruption?
Alors, le problème survient depuis le moment des recrutements. Alors, c'est par affinité, parce que mon père est général, il est colonel, il est haut gradé de l'armée. Donc, ça commence comme ça. Cette affinité, et ensuite, au niveau de la formation, ils envoient des gens qu'ils veulent, des gens qui ne sont pas prêts à combattre de façon farouche. Alors, et puis, en achetant des équipements, les sommes faramineuses sont débloquées et sur le terrain, on voit qu'il n'y a rien.
Donc, pour vous, forcément, l'argent, à un moment donné, disparaît.
Voilà, c'est ça. Ouais. Nous avons vu des surfacturations, des chaussettes, des boîtes pour les militaires qui ont été facturées à des milliers de nos francs. mais on ne comprend pas. Mmh. Une armée qui ne s'est même pas ripostée, qui tient pendant 3 heures de temps après, il y a eu tant de morts par un groupuscule. Vraiment, cela montre, dénote une déliquescence totale de l'armée.
Oui.
L'armée n'est pas prête à combattre.
L'armée n'est pas prête à combattre. Moussa nous dit, le président Ibeka a été élu en grande partie pour apporter une réponse militaire foudroyante. Mais depuis 3 ans, l'armée malienne, jadis dotée en avions de combat et hélicoptères soviétiques, n'a toujours aucun moyen aérien pour un territoire de plus d'un million de kilomètres carrés. Merci à vous, Mamadou Mouriba, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous disiez au Standard que cette attaque, cette énième attaque, sape le moral de la population malienne.
Entièrement d'accord, Juan. Pour commencer, vraiment, je compatis à la souffrance de la population malienne qui vient de perdre un soldat. Pour revenir à notre sujet, en effet, effectivement, moi, personnellement, et puis la majorité partie de la population actuelle au Mali, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets parce que de plus en plus, on se rend compte que ces actes terroristes se rapprochent de plus en plus des grandes villes et surtout de Bamako. Pour celui qui connaît la géographie du Mali, Nampala, l'élève de la région de Ségou, est à 240 km de Bamako.
Mmh. Oui. Alors, donc vous avez l'impression que ces attaques, finalement, qui étaient dans un premier temps concentrées dans le nord du pays, descendent de plus en plus vers le sud, d'abord au centre et puis de plus en plus vers le sud.
Exactement. Alors on se pose la question. Le jour où, avec des événements comme ça, on se pose vraiment la question, est-ce qu'on a des forces de sécurité aujourd'hui qui sont à même de contrer une vague déferlante qui veut descendre vers le sud? La question, on se la pose. Vraiment, on se pose une question vraiment sérieuse, là.
La mesure prise hier par le gouvernement, l'unique mesure, hein, après cette attaque, le rétablissement de l'état d'urgence, c'est suffisant ou pas pour vous?
Alors, l'état d'urgence existait. De toute façon, l'événement qui vient de survenir, elle est survenue pendant qu'il y avait l'état d'urgence.
Non,
un état d'urgence.
Alors, il se trouve que l'état d'urgence a expiré le 15 juillet dernier. Il avait été prorogé de 3 mois, expiré le 15 juillet dernier. Il y a eu, entre-temps, cette semaine, donc, cette attaque de Nampala. Et donc, le gouvernement a décidé d'appliquer une fois de plus l'état d'urgence pour une durée de 10 jours. Voilà.
10 jours, moi, je ne vois vraiment pas de corrélation entre la levée de l'état d'urgence et l'attaque de cette djihadiste. Parce que de toute façon, qu'il y ait l'état d'urgence ou pas, ça m'étonnerait que ces gens-là aient soit empêchés par quelconque état d'urgence qu'ils soient. Et ils sont dans un état d'esprit, ils sont prêts à aller jusqu'au bout, mais maintenant, c'est à notre force de l'ordre de se préparer en conséquence pour les contrer.
Ouais.
Alors, maintenant, ceci dit, l'attaque du camp de Nampala, je pense, un camp militaire, c'est un camp militaire. Qui n'importe qui ne peut pas quand même venir comme ça et entrer dans un camp militaire et en plus, ben, 4h du matin, et il reste dans un camp.
Enfin, 4h du matin, certains parlent de 5h30, d'autres, voire même, j'ai même lu des confrères de la presse malienne parler de 9h du matin. Enfin, en tout cas, l'interrogation, c'est effectivement de comprendre comment des hommes armés, quand bien même ils soient très armés, aient pu prendre aussi facilement ce camp, camp quand même important dans la région de Ségou. Merci à tous de votre fidélité. On ne va pas prendre un dernier auditeur pour une petite minute. Je vois mes techniciens de l'autre côté, mais oui, mais il y a du monde, d'accord, bah on en prolongera le débat demain si vous le voulez, évidemment, demain vendredi, libre antenne, vous commentez l'actualité de votre choix, vous pouvez d'ailleurs vous inscrire dès maintenant. Le débat sur la situation sécuritaire au Mali se poursuit sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité. On attend également évidemment toutes vos questions à la rédaction pour demain matin. À suivre dans 10 minutes juste après le journal, comme tous les matins, Priorité Santé, Claire Hédon, qui vous propose ce matin une rediffusion, un reportage sur la prise en charge des usagers de drogue en Tunisie, un pays où la loi contre les stupéfiants est très sévère. Pourtant, la drogue circule et les consommateurs seraient de plus en plus nombreux depuis la révolution de Jasmin. C'est un reportage à suivre dans 10 minutes après le journal. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Merci à vous de votre fidélité. Belle journée. À demain.
Vous avez suivi Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, solution de transfert d'argent accessible depuis votre mobile au dièse 144 dièse.